Sur le modèle des éclairages de la Tour Eiffel, les deux cheminées de 240 mètres de haut qui toisent le port du Havre sont illuminées par intermittence à la tombée du jour, et ce jusqu'à fin avril, visible à 50 km à la ronde. C'est l'un des événements marquants du 500e anniversaire du port du Havre. Cette place forte du commerce extérieur français qui a été créée à l'initiative de François Ier. Alors comment se porte-t-elle, Dominique Bayard?
Alors le Havre, c'est le premier port mondial du commerce des vins et spiritueux. C'est à peu près son seul titre incontesté. Et c'est après tout logique, la France fait partie des premiers producteurs, des premiers exportateurs de vin. Son autre podium est plus domestique, c'est le premier port à conteneurs de France. Mais au niveau européen, ce n'est que le numéro 5. Son trafic a baissé l'an dernier pour le vrac comme pour les conteneurs, alors que celui des concurrents, Anvers ou Rotterdam, continue à croître. Et cela fait 20 ans que l'écart se creuse. Le Havre, c'est aujourd'hui 2 500 000 conteneurs. Anvers, c'est 10 millions de boîtes et Rotterdam, 12 millions.
Alors, à l'heure de la mondialisation, qu'est-ce qui explique cette divergence?
Eh bien justement, c'est précisément l'histoire récente de la mondialisation qui explique cette progressive mise à l'écart du Havre. Les pays du Nord, avec l'Allemagne en tête, sont devenus des champions du commerce extérieur, tandis que les positions de la France ne cessent de se replier. Il y a donc eu une modification de la géographie des échanges et la dynamique demeure du côté de l'Europe du Nord. Le clou sur le cercueil du Havre, selon l'expression qui a été employée par Jacques Attali, c'est le feu vert donné à la construction d'un canal reliant la Seine à l'Europe du Nord. Le chantier doit commencer à la fin de l'année. S'il est mené à son terme, le Havre pourrait rapidement disparaître de la carte maritime.
Que faire pour que pareil scénario catastrophe ne devienne pas réalité?
Eh bien, pour éviter cette catastrophe, il y a urgence à développer les dessertes du port en investissant dans le fret ferroviaire et fluvial. Au niveau du chemin de fer, les décisions ont été prises, mais cela va beaucoup trop lentement, dénonce cette semaine la Cour des comptes dans son rapport annuel. La nouvelle ligne de chemin de fer desservant le Havre sera en service, si tout va bien, entre 2030 et 2050. La Cour des comptes demande aux opérateurs d'accélérer la cadence. C'est aussi le vœu des 600 entreprises membres de l'Union maritime et portuaire du Havre. Elles représentent 20 000 emplois, c'est-à-dire à peu près les deux tiers des emplois liés au port.
Alors cette Union maritime réclame beaucoup d'investissements, une sorte de plan Marshall.
Elle a présenté au début de l'année son plan stratégique pour sauver le Havre et elle veut le soumettre aux candidats à la présidentielle. Son lobbying passe aussi par Bruxelles. Pourquoi pas, propose l'Union, profiter du financement européen avec la deuxième phase du plan d'investissement stratégique de Jean-Claude Juncker. L'Union maritime et portuaire du Havre veut surtout que l'État concentre ses investissements sur le Havre plutôt que de saupoudrer les moyens sur l'ensemble des ports français. Gagner cette bataille très politique ne suffira pas, il faut aussi conquérir les armateurs. Pour survivre à la débâcle du fret, ces derniers ont passé récemment des alliances et ils sont en train de revoir la carte des ports où s'arrêteront leurs porte-conteneurs géants. Leur décision et donc le sort du Havre seront connus ainsi avant la fin du mois de mars.